à toutes et à tous. Dans cette émission, nous allons vous parler des animaux. L'émission Psytoyen est faite par le GEM, c'est le groupe d'entraide mutuelle, le nouveau CAP de Nantes. Je vous présente les participants à cette émission. Il y a Pascal, Emmanuel Bonjour. Et Olivier.
Bonjour.
Voilà. Et Julie à la rédaction et à la technique. Comment ça va alors ?
Ah, ça va bien.
Et puis il y a Clément aussi, notre témoin national.
Et oui, et moi c'est Clément, merci Emmanuel. Bon,
d'accord.
Ça va, vous voulez prendre la parole un peu ?
Je crois qu'il y a le texte d'Emmanuel.
Le texte d'Emmanuel.
Ah, c'est mon tour. Alors, on bouge en meute pour aller au match à la Beaujoire et on se jette sur la bouffe à l'heure du déjeuner. Tout compte fait, on diffère peu de nos amis les bêtes. Mais voyons, nous sommes des êtres de culture, rappelleront les gens raisonnables. Oui, peut-être, mais c'est vite oublié des mammifères dont les progénitrices prennent soin de leurs petits, comme de la prunelle de leurs yeux, mais également de ceux des femelles de leur clan. L'instinct maternel comme manifestation de l'empathie dans une société de l'attention partagée. Les mères donnent la tétée à un enfant qui n'est pas le leur, comme chez les bonobos, où les femelles ont des partenaires multiples et où tout le monde s'occupe de tout le monde. Les mâles étant ignorants de leur paternité, alors, dans le doute, ils s'occupent de n'importe quel bébé comme du leur. La société de l'assistance serait-elle commune aux vivants pour se préserver ? Les animaux sont-ils intelligents ? Avec Descartes, ils se confondaient avec une machine. Ils étaient insensibles et donc incapables de ressentir la souffrance. Les bêtes n'ont pas seulement moins de raison que les hommes, elles n'en ont point du tout, écrivait Descartes. Maintenant, on sait qu'il a tort, et son système de représentation est devenu obsolète. Bien qu'il ait pendant des temps regrettables fondé la représentation des animaux par les hommes et incité ceux-ci à maltraiter ceux qui sont en réalité leurs semblables. Les animaux pensent selon l'éthologue Boris Cyrulnik. Ils peuvent anticiper et façonner des outils. J'ai vu des singes fabriquer une échelle. Et pour cela, il faut penser. On donne désormais le droit à l'autodétermination aux animaux. On a remarqué qu'ils possèdent un univers intérieur et ne sont donc pas de simples automates. Comment accepter de traiter comme des objets des êtres doués de sentiments ? L'empathie des mères envers leurs petits ou l'esprit de solidarité des sangliers, comme on a vu sur Géou où on lit. Dans une réserve naturelle tchèque, des scientifiques ont observé un groupe de sangliers sauvages, dirigé par une femelle, intervenir pour libérer deux jeunes qui étaient piégés dans une cage. Selon leur étude, c'est la première fois qu'un tel comportement est documenté chez l'espèce. Le changement de relation des humains avec les autres espèces serait-il en train de pointer son nez ? Si un cochon n'a que faire des œuvres de Shakespeare ou des équations de la thermodynamique, n'a-t-il pas le droit au bien-être ? Il pourrait trotter dans la nature et fouiller dans la terre à la recherche de quelques racines à déguster, au lieu de se trouver coincé dans une cage comme les truies qui ont mis bas, ou se retourner fait partie des missions impossibles, tout comme voir la lumière du jour ou toucher ses petits. Certains prédisent que l'élevage industriel sera comparé au crime de masse. Parce qu'à un moment, on arrivera où on comprendra que les animaux ont des droits comme nous. Mais ça me fait un peu bizarre de vouloir choyer un animal qui aurait pour fonction de finir dans mon assiette. Le problème éthique resterait entier, mais la bouffe et la morale sont-elles compatibles ? Devenir végétarien, pourquoi pas ? En remplaçant la viande par un curé de lentilles accompagné de riz pour avoir son content de protéines, sans oublier les œufs et sa vitamine B12 indispensable qui ne se trouve que dans les produits carnés. Végétarien comme 35% des Indiens, même si le chiffre varie beaucoup d'un informateur à l'autre. Les mangeurs de rôti de bœuf dominical sont en train de changer de régime. Sciencepost.fr en parle sur son site où l'on apprend que l'Union des étudiants d'Oxford, qui représente des étudiants de la prestigieuse université anglaise, vient de voter l'interdiction de la viande dans les menus des cantines du campus. Le but, lutter contre le réchauffement climatique. Car les animaux d'élevage sont responsables de 15% des émissions anthropiques des gaz à effet de serre. Merci.
Et voilà, c'était le texte d'Emmanuel. Est-ce que vous voulez réagir sur le texte d'Emmanuel ?
Ah bah, y a beaucoup de choses, ouais. Boris Cyrulnik, déjà, c'est quelqu'un d'intéressant, je trouve. Mm-hmm. Il dit bien aussi, tu l'as dit tout pas la phrase, quand nous comprendrons qu'une intelligence est possible sans parole, nous mourrons de honte d'avoir enfermé l'espèce animale dans des zoos et les avoir maltraités pour notre consommation, quoi.
C'est ça, parce qu'il faut voir que les animaux et les humains ont des choses en commun. Par exemple, s'ils sont capables de raison, s'ils sont capables de sentiments, parce que le sentiment, l'affection d'une mère pour son enfant, on le voit chez les animaux, on le voit chez les humains. On est évolué peut-être. À ce qui paraît, on est sorti un peu de notre état de prisonnier par la nature, d'accord. Mais on a quand même beaucoup de liens avec la nature, avec le psychisme animal, parce que quelque part il y a des relations qu'on noue avec les gens qui sont les mêmes chez les animaux. Parce que par exemple, à ce qui paraît, le geste affectueux de mettre la main autour de la taille de l'épaule de quelqu'un, on voit ça chez les singes. Ce qui fait que même les singes sont très anthropomorphes encore, mais voilà, il y a des similitudes. Et même souvent on dit que les cochons ressemblent énormément et sont très aux humains et sont très sensibles.
D'accord, très bien. Ouais. Puis on vient en même temps de l'espace animal, nous aussi, on vient des primates,
c'est
quoi.
Puis même, à la rigueur, il y a deux embranchements, il y a les animaux et les végétaux, quoi. Et donc, en fait, les animaux, c'est des êtres mouvants, les végétaux, c'est des êtres stagnants, quoi. Mais voilà, il y a même des gens qui disent qu'il y avait l'éthologue, un juif, je sais plus comment il s'appelle. En fait, il disait, il préférait le droit des vivants, en fait, au lieu de parler du droit des humains, des animaux, du droit des vivants. Parce que, tu vois.
C'est certains pays d'Asie où les plantes sont considérées aussi comme des êtres à part aussi, qu'ils ont leur propre vibration, leur propre pensée. Si j'ai pas de bêtises, en tout cas.
Oui.
Et que en fait nous on est centré sur l'Europe, la France, tout ça, et on devrait peut-être se renseigner aussi sur d'autres pays. Comment, par exemple, en Inde, les vaches sont sacrées, par exemple. C'est une sorte qu'on prend au-dessus de la tête, ou d'autres exemples probants et parlants sur la différence de culture et de vision sur les animaux aussi, comme sur les plantes. Tu parlais des plantes.
Et c'est ça, c'est qu'il y a une sorte de lien entre les dans la vie, en fait, la vie, quoi. La vie fait qu'on est tous liés par un sentiment de survie et tout ça. Je pense que tous les animaux, enfin, c'est faux, parce que des fois les animaux, en fait, même quand on y pense, vous connaissez la fable du renard ou du lapin qui se ronge la patte pour partir du piège qu'a tenu le chasseur, là, qui est piégé. Hein. En fait, là, c'est-à-dire que la vie, on a tous envie de vivre, je pense.
Exactement.
Même nous qui sommes malades, on avait envie de se suicider, je suis sûr que, en fait, des fois on dit que c'est un appel à l'aide, en fait, c'est que,
oui.
En fait, parce qu'on voit pas de d'oraison, mais quelque part, il suffit de donner un peu de. Quand on entend une voix qui nous aide, tout ça, après, on
il faut pas rester seul dans ces cas-là, c'est vrai, faut essayer de dire qu'on n'est pas seul et de se faire aider par des membres, des amis, des membres de la famille et des spécialistes après, quoi, ce genre de choses.
On peut dire qu'on est des animaux sensibles, quoi, et puis que.
Bah, en fait, on est doué de la pensée et de la parole, mais il faut comprendre, je pense, qu'il y a d'autres façons d'exister, de vivre, d'être intelligent, sans parole, avec une pensée plus.
Et encore, on dit qu'il n'y a que les humains qui ont la parole, mais si on pense aux abeilles, si on pense au fait qu'on peut apprendre les gestes aux grands singes, on peut se dire quand même qu'on a aussi. Des fois, il suffirait juste de regarder sous un autre jour, on verrait que les autres choses ont aussi... Parce qu'on est tellement centré sur le même processus, tout le temps répéter les mêmes gestes, en fait, on n'ouvre pas c'est son regard sur la beauté de la nature, tout ça.
Et son intelligence et sa façon de dire, peut-être... qu'on capte pas, quoi, de différente d'être intelligent, quoi.
Parce que... On voit tout le temps, on apprend tout le temps plein de choses sur les singes et tout ça qu'on savait pas et tout ça.
Même en observant les animaux dans la nature, où comme tu disais, on s'aperçoit qu'ils peuvent utiliser des outils. Ouais, c'est complètement ça. Dingue. C'est ce qui nous a différencié l'Homo sapiens, au habilis, début, ouais, ouais, c'est ça. Les outils. Quoi.
Ils ont de l'humour aussi. Hein.
Eh oui.
Ils ont de l'humour. Eh oui. Okay, ouais. En fait, le truc, c'est l'anthropocentrisme en fait. Hein. C'est un peu ça notre problème.
C'est quoi ça l'anthropocentrisme?
L'anthropocentrisme, c'est ce que ça veut dire. Anthropo, c'est les humains, je pense. Et centrisme, en fait, on.
Notre façon à nous de.
C'est ça en fait. Quand on voit les informations, c'est la guerre entre les humains et tout ça. En fait, on ouvre largement pas le champ des possibles aux autres sujets. Hein. On est souvent basé sur nos histoires d'amour, les histoires de guerre. Les histoires de famille, tout ça, c'est tout le temps en fait dans le même
dans le guidon cycle, et ouais, ça va bien parce que enfin si on pouvait extrapoler, il y a l'intelligence peut-être extraterrestre qui ne comprendrait pas, qui penserait qu'on est des sous-genres d'intelligence, ouais, quoi.
Bah c'est possible, c'est parce que.
Et il y aurait donc ce basculement, cette inversion de dire les animaux sont en dessous de nous et des extraterrestres plus évolués pour dire c'est quoi cette forme de vie primaire, quoi.
C'est possible que les extraterrestres s'intéressent plus aux fourmis qu'à nous, en fait, parce qu'ils verraient que les fourmis sont beaucoup plus socialement.
Oui, constructives, il n'y a pas la guerre et tout ça, et ouais, on voit les valeurs. Qui sont pas de guerre, de concurrence, de mauvaises choses en fait liées à nos modes de vie entre les nations, l'Europe, ce qui se passe en ce moment, par exemple.
C'est vrai, on est très individuel en fait.
Ouais, complètement. Ouais. On est très individuel. Il y a sûrement d'autres pays et d'autres régions du monde où il y a plus d'unité, plus de prise en charge des différences, des fragilités,
ça, ouais.
Des
forces. Parce que justement, par rapport à ça, c'est que souvent dans les
les animaux ont ça, je pense. Les animaux ont ce genre de choses là, quoi. Pour en revenir à ce qu'on disait, les animaux ont je pense, comme les bonobos par exemple, cette façon d'être, de s'occuper de chacun.
Ils font l'amour.
Voilà. Mais le sexe c'est aussi c'est à la base aussi la reproduction. On est tous il y a le côté œuf avec les spermatozoïdes, il y a d'autres façons de reproduction, mais
le plaisir aussi.
Oui, le plaisir, le sexe.
Le principe de plaisir qui réunit les gens, quoi.
La reproduction. Ça fait partie, on est lié à ça.
Mais je vois aussi que les bonobos, ils font l'amour pour le plaisir, pas forcément pour faire des descendants.
C'est un cas à part. Généralement, les animaux se reproduisent, quoi. Et les bonobos, c'est un cas, c'est les grands primates, ils le font pour le plaisir aussi. Enfin, ce serait intéressant d'étudier plus précisément les choses. Mais voilà, enfin bref.
Oui, ouais. Bah, les bonobos, de toute façon, il y a YouTube maintenant.
Oui, c'est ça, pour s'intéresser à tout ça. Mais je me demandais si jamais, par exemple, pour parler des chiens et des chats, si c'est quand ils sont en chaleur, en fait, qu'ils ont cette... Ils prennent aussi du plaisir, mais c'est quand ils sont en chaleur, c'est pas tout le temps, quoi, je pense.
J'ai eu un chien, moi, en fait, il allait chercher la femelle, en fait. Il devait les sentir, et puis il allait voir les femelles. Une fois, je l'ai chopé en plein acte.
Ah bah oui, ça arrive, ça, c'est sûr.
Ouais. Ah ouais, une fois, je l'ai interdit de s'accoupler avec une femme, interdit.
C'est impossible.
Je l'avais en laisse. En fait, il m'a regardé avec des yeux suppliants.
Ah, c'est normal, sûr. Écoute. C'est, oui,
ouais, bah c'est, parce que.
Ça tire pour tout le monde.
Ouais, il n'a pas compris. Il m'a regardé.
Je peux pas y aller.
Putain, voilà.
Ouais, c'est cool.
Socialisé, humaine. Je sais pas. On peut passer n'importe
quoi. Pour en revenir aussi aux fondamentaux, quoi. Voilà, quoi. Le père, la mère, la femelle, le mâle. Et. Il y a ça aussi, quoi, le fait de dire que...
Des humains qu'on replace. Mais justement, il y a ce problème-là aussi que souvent, en fait, on interprète le comportement des animaux par rapport à notre comportement. Et ça, en fait, c'est faux.
C'est pour ça qu'ils s'adaptent, en fait. Il disait que c'est pour ça qu'ils s'adaptent.
Je voudrais faire une remarque, c'est que l'homme n'a pas eu le langage et la parole au départ. L'homme s'est rendu compte qu'il y avait... la possibilité physiologique de parler, il l'a fait, mais c'est pas tout de suite qu'il a parlé.
D'accord.
Donc l'homme au départ, des hommes préhistoriques sans doute poussaient des cris pour se faire comprendre.
D'accord, d'accord. C'est très intéressant. Okay.
Voilà. Alors maintenant, nous allons faire une pause musicale avec le morceau La Ferme des Animaux des Fatal Picard.
Bonjour les enfants, c'est l'ami Rémi avec vous, et nous allons faire une chanson qui s'appelle La Ferme. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est l'introduction. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio le blaireau. Ils se réunissent et décident d'aller chercher des amis pour se rendre à leur rendez-vous. Ils rencontrent Yvan le hareng et Edgar le cougar et Fidèle la sauterelle et Firmin le lémurien et Ginette la mouette et Manon l'espadon et Yvon le saumon et Mario le bulot. Et en chemin ils rencontrent aussi plein d'autres amis, Lulu le zébu et Idir le tapir et Dédé la galinette cendrée et Salomon le cochon et Jean-Marc la carpe et Théo le cabillaud et Pascal le chacal et Sophie le canari. Et avec tous ses amis, il rencontre un autre groupe d'animaux qui se rendent au même endroit. Mais quel hasard! Il y a Jean-Pascal l'orignal et Loïc le lombric et Nicolas le koala et Chloé l'araignée et Annie le ouistiti et Hector l'alligator et Hubert le coquin et Raoul le pitbull. Mais il y a aussi Armand l'éléphant et Bernard le balbuzard et Géraldine le cygne et Damien le requin et Arnaud le chameau et Cécile le mandrille et Eric le porc épic et Eric le nazique.
Enfin zit, c'est quoi ce bouffon là, il a le même prénom que moi là.
Mais on s'en fout, c'est une chanson.
Ah non, bah je suis pas d'accord, hein, c'est qu'il y a embrouille là, Gronaz et toi, c'est quoi là, que j'ai le même prénom?
Comment ça, Gronaz, tu te fous de mon espèce là, c'est ça?
Ouais, les nastazik, nazik, t'il nazik, t'es Gronaz, t'il nazik de...
Bon, c'est bon, vos gueules les animaux maintenant, hein. Bon, on en était où là? Ah oui. Et il y a Louis le grizzly et Augustin le lamantin et Sylvie le coati et Virginie le diable Tasmanie et Herbert le dromadaire et Aurélie l'ocapi et Bertrand le footbassant et Laurette la vachette.
Ils ont aussi avec eux des animaux moins sympathiques qui ne mériteraient pas d'exister si le monde était parfait.
Il y a Edith le trilobite et Noémie la bactérie et Hervé le bousier et Agathe la blatte et Fernand le scolopendre et Chantal.
Alors nous allons maintenant avoir une discussion sur la souffrance animale.
Elle est monnaie courante dans les abattoirs, ça on peut le comprendre, mais elle est aussi monnaie courante dans les fermes. J'ai moi-même vécu, enfin pas vécu, mais passé un été dans une ferme, et on voyait l'agricultrice couper les testicules du petit cochon. Voilà. Et il faut savoir qu'un cochon, ça reste pas longtemps à être engraissé, ça prend 100 kilos par là, enfin, je sais pas trop, en l'espace de quelques mois. Et après, ils sont amenés à l'abattoir. Donc la vie d'un cochon, c'est très brutal, quoi.
D'accord.
Il faut voir aussi qu'il y a la maltraitance au niveau des essais sur les animaux. Et que de savoir, par exemple, qu'un produit cosmétique fait du mal aux yeux d'un lapin, est-ce que c'est très indispensable? C'est pas sûr.
Et tout à fait. Il y a même des. Moi, j'ai vu un truc sur Elon Musk. Il y avait des implants cérébraux.
Ah, oui, oui,
et en fait, c'était des singes qui leur pratiquaient des souffrances très très importantes pour des tests sur des implants pour nous les hommes. Et ils faisaient ça sur des singes et c'était une horreur. Il y avait une photo et on voyait toute l'expression des singes qui me renvoyait à moi-même, en fait. Putain, mais ils ont. C'était complètement dingue.
J'ai vu ça d'ailleurs, c'est que. Tu veux intervenir?
Je pensais à une expérience que je faisais quand j'étais en seconde en sciences naturelles, c'était en 1974. On dépouillait des grenouilles qui étaient à moitié mortes et on vérifiait qu'elles étaient nerveusement sensibles. Avec des électrodes. Bon, c'était bien la souffrance animale.
C'est ça.
C'est de l'amusement. Enfin,
on le faisait bien. Hein.
Ouais, d'accord, mais les scientifiques qui font des recherches sur les animaux, j'ai vu ça, c'est qu'en fait, ils pensent que. En fait, c'est ridicule parce que. Il n'y a aucune projection chez l'être humain. On veut savoir comment. On torture un rat. Et donc, en fait, il n'y a aucune projection sur l'humain. Je veux dire, comment fonctionne le rat, ça va pas marcher chez l'être humain. Les molécules, tout ça, ça fonctionne pas pareil chez le rat et chez l'être humain. Et pourtant, on fait des expériences comme ça. Donc c'est de la maltraitance qui sert à que dalle, quoi.
Et des fois aussi, on utilisait des souris blanches. Ouais, pareil, nous aussi, dans l'expérience en sens naturel.
Les lapins, mais maintenant, les singes.
C'est interdit.
Maintenant, je pense que c'est interdit en sens naturel de faire ça. Ah. Je vous parle de ça, c'est l'année 74, hein, c'est pas nouveau. Hein.
Ah. Bien sûr.
Ouais, il y a des lois contre la maltraitance animale, on a déjà parlé, mais... Il y en a eu plusieurs, il y en a eu en 80. En fait, il y a eu une des premières lois, je crois, qui a été créée, c'était parce que.
Il y a la loi 114, L114, défense.
L214, ça, ouais,
c'est en lien avec la souffrance animale. L114, ouais.
En fait, j'ai vu que il y a longtemps, il y a une centaine d'années, je pense, c'est qu'il y a une loi qui a été créée pour éviter de voir maltraiter les chevaux par leur maître dans les rues, quand ils promenaient les gens dans les rues, en fait. Ils maltraitaient, c'est une des premières lois. Voilà.
D'accord.
Ça fait penser à un sujet bien à la mode en Espagne, c'est faut-il arrêter la tauromachie ou pas ?
Les corridas, ouais.
La majorité des Français sont contre la tauromachie, hein.
Oui, puis c'est pas dans notre culture, c'est la culture d'Espagne, ouais.
Espagne,
ouais. Ouais, et effectivement, tu as entièrement raison. Ouais. C'est,
bah oui.
C'est une bonne question.
Picasso adorait la tauromachie, mais.
D'accord.
Parce que moi, j'avais été à Figueras voir un spectacle. Je crois que de mémoire, il y a 6 mises à mort dans la tauromachie sur une séance après-midi, quoi.
Et tu sais, souvent.
Ouais. Il y a la chanson de.
Et il y en a qui disaient qu'en fait, que si on évitait la cruauté chez les animaux, on éviterait la cruauté entre nous, quoi. En fait, j'ai vu ça, c'est que les psychotiques, les dangereux malades mentaux, quand ils sont jeunes, ils étudient comment torturer les animaux, et après, en fait, ils projettent ça sur les hommes.
C'est pas des psychotiques, mais c'est...
Pour revenir à la tauromachie, disons, on s'inquiète pas quand un animal est blessé, on commence à s'inquiéter quand le taureau est blessé, vous voyez.
Oui, c'est ça, c'est une bonne façon de voir. ça révèle les choses. Et effectivement, pour parler, quand on n'a pas de... Si on a de moins en moins d'empathie envers les animaux, et leur sort, on en aura aussi moins par rapport aux humains, aux autres. Et c'est très intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a ce mécanisme-là,
c'est ça.
D'entraîner des rapports, de mauvais rapports entre les animaux, et après de le répercuter sur les hommes et les femmes.
Ce qui fait que, il y avait Lennon, le chanteur de Beatles, disait, pour arrêter en fait, la maltraitance, il fallait devenir végétarien, quoi. Parce qu'en fait, on arrêterait la maltraitance chez les animaux. En fait, ce serait boule de neige, quoi. En fait, il disait que d'être végétarien, ça réglait tous les problèmes de violence.
Mais il était visionnaire et c'est. Oui, c'est quelque chose de très. En ce moment, il y a beaucoup de mouvements vegan, mouvements végétariens, c'est pas la même chose. Donc, oui, effectivement, puis, ouais, c'est bien. C'est bien de. Okay. Il y a une prise de conscience depuis quelques années.
Je sais que, par exemple, la viande de bœuf diminue de vente chez les bouchers depuis un certain nombre d'années.
D'accord.
Significatif. Hein.
C'est significatif. En même temps, il parle aussi de remplacer la protéine animale par d'autres protéines végétales qui auraient les mêmes saveurs. Et... Parce qu'en même temps, on commence à dépasser la production qu'on fait en un an sur Terre. On la consomme en 6 mois. Donc il y aurait en fait des besoins il n'y a plus assez de bœuf pour manger du steak sur la planète, donc ça serait pas mal d'avoir cette idée aussi de remplacer les protéines animales par des protéines végétales et tout ça, quoi. Et ça permettrait d'alléger la souffrance animale.
D'accord, alors maintenant on va passer à l'interview que nous avons fait par téléphone avec l'association Urgence Maltraitance Animale.
Vous êtes monsieur Julien Baron d'Urgence Maltraitance Animale dans la région, donc j'ai une première question. C'est pour JTFM, voilà. Pouvez-vous nous présenter votre association et pourquoi vous l'avez créée ?
Alors, l'association elle a été créée en 2013, pas par moi, hein. Je suis bénévole de l'association. Elle existe via un réseau de bénévoles et de familles d'accueil, qui est à peu près 400-500 bénévoles qui sont répartis sur 2 départements, la Loire-Atlantique et le Cher. C'est une antenne qui a été créée assez récemment dans le Cher. Et donc le but de l'association, c'est de venir en aide aux animaux qui sont victimes de maltraitance, afin de leur offrir une nouvelle vie. Et donc l'association, elle intervient ensuite à des signalements, souvent ça va être dans le voisinage, et donc elle va mener des enquêtes sur le terrain pour voir les conditions de vie de ces animaux.
Mais il faut pouvoir rentrer chez la personne pour voir comment l'animal est maltraité?
Alors, ça dépend. Des fois, ça va être visible de l'extérieur, mais oui, bien souvent, il faut rentrer, chez la personne.
D'accord. Et tous les types d'animaux sont sujets à vos soins
Oui, nous, on intervient sur tous les types d'animaux. Donc, ça va du l'animal de ferme, donc ça peut être une poule, un cochon, en passant par les rongeurs, donc les naques, cochons d'Inde, etc., lapins, et puis bon, les animaux de compagnie un peu plus familiers, comme le chien, le chat, et aussi des chevaux. Récemment, on a eu un lama.
C'est rare. Hein. En fait, on voulait savoir aussi, d'après vous, pourquoi les gens maltraitent leurs animaux?
Alors, c'est une bonne question. Il y a plusieurs profils. Ouais. C'est souvent des gens qui semblent débordés un petit peu par les aléas de la vie et qui ne mesurent pas l'ampleur de la tâche qu'il y a d'avoir un animal de compagnie. Des fois, c'est des décisions qui sont prises un petit peu sur un coup de tête. On dit, bah, tiens, je vais prendre un animal pour faire plaisir à mon enfant, par exemple, et puis on ne se rend pas compte de la tâche qu'il y a derrière. Avoir un animal, bah, c'est lui consacrer du temps. Et le temps, ben, des fois, on n'en a pas forcément, ou les gens se rendent compte qu'ils n'en ont pas forcément, qu'ils prennent pas le temps non plus. Et puis, avec les aléas de la vie, comme je vous dis, des fois, ben, au cours de la vie, on change de boulot, change d'horaire, etc., l'arrivée d'un enfant, etc. Enfin, toutes ces choses-là font que les gens négligent leurs animaux et donc, bah, quelque part, c'est une forme de maltraitance, quoi.
Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, c'est que récemment, il y a eu une loi donc, pour sauvegarder les animaux. Plus de présentation d'animaux sauvages dans les émissions de télévision à partir de 2023. Les spectacles de dauphins et d'orques seront interdits à partir de 2026. Et il sera mis fin à leur détention de reproduction en captivité. D'ici à 2028, la détention et le spectacle d'animaux sauvages sera interdit dans les cirques itinérants. Des choses comme ça, en fait. Il y avait aussi l'interdiction de céder un animal sur Internet, sauf pour les éleveurs et animaleries. Je voulais savoir ce que vous pensez de cette loi. Est-ce que, d'après vous, elle va pouvoir limiter les abandons d'animaux
Oui, ben, tout ça, ça va dans le bon sens. Hein. Tout ce qui est cirque, ça, exploitation animale, ça va vraiment dans le bon sens. D'accord. Après, au niveau du cadre de loi, c'est compliqué de savoir jusqu'où va la loi. En fait, nous, on intervient beaucoup sur des signalements. Il faut savoir que il y a le cadre légal, où là, quand il y a une maltraitance physique ou des choses comme ça, là, on va faire intervenir les forces de l'ordre, on va intervenir sur décision de justice. Mais par contre, tout ce qui va être dans la négligence, un chien qui va être attaché ou des choses comme ça, là, on rentre pas dans le cadre pénal. Et donc là, en fait, souvent c'est de la négligence. On intervient dans le dialogue, en fait. D'accord. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui vont quand même dans le bon sens.
En fait, en gros, est-ce que vous diriez que vous êtes des diplomates de la cause animale?
Oui, ouais. c'est beaucoup de diplomatie, beaucoup d'échanges, c'est beaucoup dans le dialogue. Ouais. D'accord. C'est comme ça qu'on intervient, qu'on arrive à avoir des résultats, en fait.
Et comment ça se passe concrètement, en fait? C'est les gens qui vous appellent? Comment vous savez que les animaux sont maltraités?
Bah, c'est des signalements, donc après, tous les signalements sont pas fondés. Hein. Voilà, ça peut être des conflits de voisinage, des choses comme ça. Des animaux qui aboient, qui dérangent. Et du coup, là, on intervient, on vient sur place pour vérifier si effectivement il y a une maltraitance ou pas. Quand c'est avéré, on essaye de récupérer l'animal. Donc là, on négocie avec le maltraitant, la personne qui est un petit peu dépassée par les événements, qui ne prend pas conscience de ce que vit son animal. Et on essaye de récupérer l'animal au sein de l'association pour lui donner une nouvelle vie, quoi. Mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps, quoi. Il faut savoir qu'il y a énormément de plaintes par an, souvent à presque 900 signalements par an. C'est énorme. Et on sauve 500 animaux.
Et justement, est-ce qu'il y a des critères qui définissent la maltraitance?
Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de maltraitance. Il va avoir la négligence, ne pas sortir son animal... ne pas s'en occuper, le laisser, par exemple, dans le cas d'un chien, le laisser est attaché toute la journée, ça, c'est de la négligence. C'est clairement pas un animal qui va être heureux. Après, il y a la maltraitance physique, le fait de taper son animal, de lui infliger des blessures. Ça, c'est la maltraitance physique, donc ça serait puni par la loi. Et après, donc, il va être, ça rejoint la négligence, hein, mais tout ce qui va être défaut de soins, le fait de pas soigner son animal, de pas, de laisser son état se détériorer, ça va être une forme de maltraitance. Et vous avez également aussi des personnes qui sont, ça c'est un peu paradoxal, mais des personnes qui veulent bien faire les choses et qui veulent justement aider des animaux et qui vont être dans l'excès, en fait, qui vont avoir énormément d'animaux chez eux. Donc là, on va être dans la surpopulation avec des animaux qui sont dans des espaces réduits. Et ça, c'est une forme de maltraitance également.
D'accord. Comment on peut être amené à vous aider pour garder un animal avec soi qui aurait été récupéré par vous ?
Tout ça, alors, comment est-ce qu'on peut nous aider ?
Ouais, c'est ça.
Ben, en adoptant chez nous. Hein, si vous adoptez au sein d'une association, il faut savoir que, vous, comme la nôtre, vous sauvez deux vies. Vous sauvez l'animal qui est adopté. Et vous sauvez un futur animal qui va pouvoir rentrer dans l'association parce que vous allez libérer une place dans la famille d'accueil qui avait votre animal. Vous pouvez également devenir bénévole. Hein, donc il y a plusieurs postes au sein des associations, la communication, les appels, etc. Mmh. Et vous pouvez également devenir famille d'accueil. Donc pour ça... faut faire la demande auprès de l'association. D'accord. Et puis vous avez gens qui vont venir visiter votre logement pour voir dans quelles conditions et quel type d'animal vous pourriez être prêt à accueillir. Donc on est quand même assez vigilant là-dessus, mais on manque cruellement de familles d'accueil. Donc vous pouvez trouver tous les contacts sur le site internet de l'association Urgence Maltraitance Animale. Et sur le Facebook, on travaille beaucoup sur Facebook, donc sur la page Facebook de l'association Urgence Maltraitance Animale. Donc, si vous tapez sur les moteurs de recherche et sur Facebook, vous allez trouver. Et puis, dernière chose importante, les dons. Donc, on est une association et donc tous les dons sont défiscalisés, donc à hauteur de 66%, donc déduit de l'impôt. Revenu, c'est quelque chose de très important parce qu'on est une association qui ne reçoit pas d'aide, de subvention. Donc, tous les frais vétérinaires sont payés par les adoptions et par les collectes ou les différentes manifestations que nous organisons. Mais autrement, on ne reçoit pas de subvention. Donc, tout ce qui va être don, rentrée d'argent, de donateurs et de manifestations d'adoption, c'est ce qui fait vivre l'association. Un des critères aussi d'adopter au sein d'une association, c'est qu'on connaît vraiment l'animal. L'animal aura passé un peu de temps dans sa famille d'accueil. Donc, et il sera proposé à l'adoption uniquement lorsque le caractère de l'animal sera connu et déjà qu'il sera en bonne santé. Et derrière, il y a quand même un suivi au niveau de l'adoption. On fait un contrôle quelques mois plus tard pour vérifier que tout se passe bien dans la nouvelle famille. Ça, c'est une visite surprise en fait qui a lieu. D'accord. Et pour vérifier justement que tout se passe bien, que l'animal est en bonne santé, qu'il n'y a pas de forme quelque part de maltraitance ou quoi que ce soit quand même. D'accord. Okay. Malheureusement, des fois, ça arrive.
D'accord. On vous remercie.
Merci beaucoup, Julien.
De rien. Merci.
Vous êtes bien sur Jet FM, c'est l'émission Citoyen. On va continuer maintenant avec une création sonore de Emmanuel et Olivier, Plaisir cruel, sur un texte de Tolstoï.
Il y avait une bête qu'on décrochait, une autre qu'on glissait sur le rail, une troisième, un bœuf abattu, était couché, les jambes blanches en l'air et le boucher enlevait sa peau. Par la porte opposée ou celle où je me trouvais, on faisait passer en même temps un grand bœuf, rouge et gras. Deux hommes le traînaient. Il avait à peine franchi la porte qu'un des bouchers armé d'une hache à long manche le frappa au-dessus du cou. Comme si ses quatre pieds eussent été coupés en même temps, le bœuf tomba lourdement sur le ventre, puis, tout de suite, se retourna sur le côté et se mit à remuer convulsivement les jambes et les reins. Alors un boucher se précipita sur lui en se garant des jambes, le saisit par les cornes et abaissa de force sa tête vers le sol, pendant qu'un autre boucher lui coupait la gorge et, de la blessure béante, le sang d'un rouge noir jaillissait en fontaine, recueilli dans un bassin de métal par un enfant tout éclaboussé de sang. Pendant tout ce temps, le bœuf n'avait pas cessé de tourner et de secouer sa tête et d'agiter convulsivement ses jambes en l'air. Cependant, le bassin s'emplissait rapidement, mais le bœuf était encore vivant. Il continuait de battre l'air avec ses pieds, si bien que les bouchers avaient soin de se tenir à l'écart. Aussitôt que le bassin de métal fut rempli, le jeune garçon le mit sur sa tête et l'emporta à la fabrique d'albumine, pendant qu'un autre enfant apportait un autre bassin qui commença de s'emplir à son tour. Mais le bœuf continuait à ruer désespérément. Dès que le sang cessa de couler, le boucher souleva la tête du bœuf et se mit à le dépouiller de sa peau. L'animal se débattait toujours, la tête était mise à nu, devenue rouge avec des veines blanches, et prenait la position que lui donnaient les bouchers. La peau pendait des deux côtés. Le bœuf ne cessait de se débattre. Un autre boucher saisit alors le bœuf par la jambe, la cassa et la lui trancha. Sur le ventre et sur les autres jambes couraient encore des convulsions. Puis, on lui coupa les membres restants et on les jeta dans le tas où étaient les jambes des autres bœufs du même propriétaire. Puis, on traîna l'animal abattu vers la poulie et on le pendit. Alors seulement, la bête ne donna plus signe de vie.
Alors, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce texte sur la souffrance animale dans les abattoirs ?
Oui, bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 milliard d'animaux qui sont tués par an en France. Dans le monde, ça fait 69 milliards. C'est beaucoup parce que déjà on les fait souffrir. Enfin, je sais pas, vous connaissez peut-être L214 hein, avec les vidéos qu'ils ont. Parce que L214, c'est une asso qui date depuis un bout de temps et ils ont filmé des abattoirs et dedans on voit c'est la boucherie quoi. C'est on voit des hommes. En fait, c'est des hommes qui ont été jugés après, mais ils balançaient des agneaux comme ça, comme si c'était un bout de.
Il n'y a rien qu'à changer. En fait. Ouais. Là-dessus, c'est. Dans les abattoirs, c'est assez flippant, je pense. Les types.
Et il y a plein d'infos là-dessus, parce que. Déjà, sur Internet, vous pouvez voir des documentaires de L214. Ça fait un tollé. Hein. Et donc, il y a autre chose qui avait été dit aussi, c'était que il y a des vaches gestantes qui sont tuées. Et quelqu'un avait vu ça, un travailleur dans un boucher, dans un abattoir, ça l'avait choqué. Et puis après, il avait arrêté de travailler dedans. Mais en fait, c'était des vaches, c'était gestantes. En fait, des veaux sortaient du ventre et ils étaient encore en fœtus et tout ça, c'était horrible.
Bien sûr.
Pour continuer, le GEM a un atelier d'écriture et René donc, a écrit un texte sur les animaux. Donc, je vais vous le lire. Apprendre le langage des animaux en lisant un livre s'est produit à mon insu, à cause d'un roman que j'ai lu où on me dévoilait la vie secrète des animaux. Selon ma chienne Sissi, une fée assez étourdie, en plus en noviciat, est passée ce soir-là en me donnant ce don, croyant bien faire alors que je ne demandais rien. Pas vrai, Sissi ? Depuis ce soir-là, ma vie a changé. Sans les voir, je les entends graviter autour de moi et s'exprimer. Dans le salon, plus précisément, au niveau de l'entrée, il y a des fourmis qui se parlent entre elles, se plaignant de leurs conditions de travail harassantes. Les contremaîtres sont intransigeants, implacables. La fourmilière doit être livrée au plus vite à la communauté des fourmis rouges sous peine de fortes pénalités. Ces conversations me déconcentrent pour lire le journal. Je suis contraint d'allumer le téléviseur pour ne plus les entendre geindre. Quand vient le matin, Je veux prendre soin de ma personne en prenant une douche. L'araignée s'égeant au coin supérieur de la douche me crie dessus, furieuse, me priant de ne pas lui envoyer de projection d'eau. Et c'est comme ça tous les matins, sauf quand elle court sur la façade extérieure. Le midi, quand nous passons à table, les mouches s'invitent, passant du jardin à la cuisine, guidées par les odeurs alléchantes du repas en cours. Vous les entendriez voler avec leurs petites ailes transparentes. Moi, je suis assommé par leurs prières ennuyeuses. Nous, mouches de Roumanie, très fin, donnez, donnez, beurre, sucre, confiture. Je subis et je me tais, en mangeant le plus vite possible. Telle est devenue ma vie. Et ces auditions intempestives me poursuivent jusque dans la chambre à coucher où un moustique partage ce lieu voué à la tranquillité et à la récupération. Un moustique qui se prétend mon ami squatte l'endroit été comme hiver. Nous ne nous séparons plus. Il me dit que ces petites saignées sont tonifiantes, fortifiantes pour moi. Il me fait des confidences. Il a grossi, on dirait le Danube en crue. C'est pour toutes ces raisons que je m'adresse à vous, les maîtresses de la confrérie des fées. Non pas pour demander une sanction à l'encontre de cette fée en apprentissage. Tout ce que je vous demanderai, c'est d'avoir l'extrême obligeance de lever cette disposition prise à mon égard, par mes gardes, eu égard à la gêne occasionnée. Il n'y a tout de même pas de quoi fouetter un chat pour que ça marche dans l'autre sens. C'était René. Merci René.
Ah, c'est très drôle en tout cas.
Ouais. Et il fait que des tests comme ça, René. Chaque fois, on rigole bien à l'atelier. Ah,
c'est vraiment chouette, ça, mais c'est rigolo. Ouais. Ouais.
Il y a Charlotte Bartou-Hervy qui aide les gens avec leurs difficultés, avec leurs animaux, qui est comportementaliste, que l'on a interviewé par téléphone tout à l'heure.
Bonjour madame, vous pouvez vous présenter et dites votre type de formation ?
Alors du coup, je m'appelle Charlotte Berthe-Hervy, j'ai 32 ans, j'habite à Nantes. J'avais fait un BTS en gestion de PME-PMI. Suite à ça, j'ai fait une école de comportementaliste à Nantes. J'ai mis 2 ans à la faire, plus 10 mois de préparation de mon mémoire que j'avais réalisé sur... Le deuil humain et son influence sur l'animal de compagnie. Et après, je me suis formée à l'hypnose et j'ai dû commencer mon activité en 2016.
Comment vous formulez un diagnostic pour un animal ?
Alors, le diagnostic, ça va pas forcément être sur l'animal parce que notre métier de comportementaliste, il traite vraiment de la relation de l'homme à l'animal. En moyenne, je dirais, les consultations durent entre 1h30 et 2h. Et le diagnostic, c'est la plus grosse partie du travail. Si vous voulez, on nous appelle pour un symptôme. Donc, c'est le problème qui va déranger les maîtres. Exemple, le chat fait pipi partout. Et le diagnostic, ça va être de comprendre qu'est-ce qui amène, par exemple, le chat à uriner partout dans la maison. Il y a un déclencheur la plupart du temps qui va amener l'animal à faire ça. Et donc, le but du diagnostic, c'est de comprendre les causes qui amène l'animal à faire ça, et les causes ne seront pas forcément dues, enfin c'est l'animal qui va le faire, mais ce ne sera pas forcément à cause de l'animal. Ce sera surtout à mettre en lien avec la relation que l'homme va avoir avec l'animal. La réponse de l'animal, ce qu'on va appeler le comportement adaptatif, souvent de manière inconsciente, c'est l'humain et la relation de l'homme à son animal qui va l'induire.
Donc c'est l'humain qu'il faut soigner dans ces cas-là ?
Alors, on va pas parler de soigner parce que moi je soignerai pas, mais c'est amener à des prises de conscience, expliquer comment l'animal réagit par rapport à ça et trouver des solutions pour que l'animal puisse vivre le mieux possible par rapport à une situation.
D'accord. Et on voulait savoir aussi, est-ce que les animaux ont des maladies psychiques, peut-être dues aux gens qui les ont avec eux, mais est-ce qu'ils ont des maladies psychiques ? Je vous demandais ça, les animaux. La dépression ou la psychose ou des choses comme ça.
Alors, il peut y avoir des comportements de dépression, même des hystéries. Si vous voulez, un animal ne va pas naître avec une pathologie comme ça.
D'accord. Il n'y a pas de schizophrénie, par exemple, parce qu'il paraît que la schizophrénie, ça peut être dans les gènes. Il n'y a pas de maladie psychique des animaux qui soit dans les gènes.
Alors, moi, je n'ai jamais eu de cas. Et là, ça relèverait plus de l'ordre du vétérinaire. c'était de l'ordre physiologique, en fait, ça relèverait plus de l'ordre vétérinaire. Mais en tout cas, tous les comportements que on peut voir et que j'ai pu traiter étaient toujours en lien avec la relation de l'homme à l'animal.
Quelle est la typologie des maladies les plus courantes ?
Alors, des maladies, comme je vous dis, les maladies, j'en aurais pas. Pour ce qui est vraiment des maladies, ce sera le côté vétérinaire. Nous, on parlera plus de symptômes. Alors, pour les chats, il y aura beaucoup de malpropreté, beaucoup d'agressivité sur les maîtres. Ça peut être des destructions. Pour les chiens, ça va être agressivité, ça peut être des fugues, aboiements. Il peut y avoir des mutilations une fois que le diagnostic vétérinaire a formulé que ce n'avait rien de physiologique et du coup que c'était comportemental.
Et à part les chiens et les chats, vous traitez quels animaux ?
Ah, c'est tout. J'ai la formation pour les chevaux, mais je ne pratique pas c'est un monde bien particulier. Je n'en fais pas partie, donc je laisse ça à ceux qui s'y connaissent très bien.
Autrement, je voulais poser une question à un type culturel. Êtes-vous courant que les chats ont fait plus appel à des textes poétiques ou littéraires que les chiens ? J'ai jamais vu de texte poétique sur les chiens. Les chats, par exemple, je pense à Malraux, qui a écrit sur son chat, à Baudelaire, mais j'ai jamais vu qu'il y a sur les chiens.
Je suis pas au courant non plus.
Ah bon ?
Plus au niveau de la psy, sur les écrits qu'il a pu avoir, ça va plus être sur l'aspect au niveau de l'inconscient collectif de Jung, qui décrivait les animaux et les liens qu'ils pouvaient avoir avec l'inconscient collectif humain. Puis je le constate beaucoup quand même en consultation. Les chats, ça va, au niveau de l'inconscient collectif, ça va beaucoup représenter la fertilité, la maternité. C'est vrai qu'en rendez-vous, je me rends compte qu'il y a énormément de liens qui vont induire les comportements adaptatifs des animaux par rapport à ça. Mais ce sera souvent des choses qui seront mises en place de manière, encore une fois, complètement inconsciente. Mais il y aura beaucoup de réponses et de comportements adaptatifs de la part du chat par rapport à tout ça.
Je pense à une question. Qu'est-ce que vous pensez des chiens qui mutilent les enfants, par exemple ?
J'ai eu à traiter ce genre de cas où sur des chiens qui avaient vraiment... c'était pas tué, mais bien abîmé... des personnes. Pour moi, on peut toujours tout traiter. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose pour moi qui a poussé l'animal à faire ça.
Vous n'êtes pas pour l'euthanasie, non ? Parce que souvent, on entend ça, c'est que quand le chien a mordu une personne de son entourage, il va le refaire.
Oui, le goût du sang et tout.
C'est ça, on entend ça. Ouais.
Le chien, il va vraiment fonctionner selon... des codes canins. En fait, c'est vraiment des idées reçues, hein. L'idée de il a goûté au goût du sang une fois, il y reviendra. Le chien, ça va fonctionner vraiment par rapport à sa place dans la hiérarchie. Et c'est des choses qu'on peut travailler. Si c'est bien fait, c'est des choses qu'on peut travailler. Alors après, il y a toujours des mesures de sécurité à respecter. De toute façon, même avec un chien le plus mignon du monde et avec qui on n'aurait jamais aucun doute et aucun souci, il faut toujours respecter... certaines mesures de sécurité, comme je disais, pour protéger les enfants, mais même les adultes. Mais pour moi, je pense qu'on peut toujours sauver un chien et faire qu'il ne remordra pas si ses codes sont bien respectés et s'il comprend ce qu'on attend de lui. Souvent, quand un chien va mordre, c'est que la relation installée n'était pas bien mise en place et le chien a mordu parce que cette relation n'était pas respectée.
Autrement, je pense à une question. Les chats, ça fait partie des félins, donc comme les tigres, les pumas. Donc, est-ce qu'il est plus difficile de traiter un chat parce qu'il fait partie des félins qu'un chien ?
Non. En fait, les méthodes de travail ne seront pas du tout les mêmes parce qu'ils n'ont pas les mêmes modes de vie, ils n'ont pas les mêmes critères ni les mêmes règles. Et donc, en consultation, le but, c'est d'aller mettre tout en place pour faire en sorte que l'animal et ses critères soient au mieux respectés pour que la cohabitation se passe le mieux. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes critères ni les mêmes modes de vie, mais les consultations durent le même temps et il y a des réussites aussi bien pour les chats que pour les chiens. Alors, pour les chats, souvent, ce sera qu'un seul rendez-vous et pour les chiens, deux. C'est très con. En fait, c'est pas une thérapie qui va être suivie parce qu'à partir du moment où on va expliquer au maître notre diagnostic et arriver à faire comprendre pourquoi l'animal répond comme ça à telle situation, le maître va avoir des objectifs qu'on va chercher ensemble. On va mettre en place des choses et l'animal, que ce soit le chat ou le chien, sont deux êtres qui vivent dans le présent, à la différence de nous. Donc, ils vont s'adapter à l'instant à ce qu'on va proposer. Donc déjà, les réponses sont très rapides. Et d'autre part, une fois que les choses sont mises en place et que les gens continuent à faire ce qu'on a décidé ensemble de mettre en place pour respecter au maximum l'animal et les critères du maître, on n'a plus besoin de nous, quoi.
Autrement, quel est le prix d'une consultation pour un animal, 1h30 pour un chat ou un chien?
Alors, pour chien et chat, c'est pareil, c'est 80 euros.
D'avoir une prédestination pour votre métier, vous appelez Charlotte, c'est chat et lotte.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Merci à Charlotte d'avoir répondu à nos questions. Et nous allons maintenant nous intéresser aux chevaux et à leurs bienfaits sur la santé avec une chronique sur l'équithérapie par Pascal.
L'équithérapie, c'est un terme qui signifie qu'on utilise le cheval comme médiateur et partenaire partenaire thérapeute. C'est une pratique qui est connue depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Le philosophe Xénophon, grec, écrivait « Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et pour le cœur. » Plus tard, Diderot, en 1751, aborde les aspects bénéfiques dans le fameux texte Encyclopédie. Il s'est même créé en 2005 la Société française d'équithérapie. Le public concerné peut à la fois souffrir d'handicap moteur, sensoriel ou mental. Par exemple, c'est une technique qui est appliquée pour le trouble de l'autisme. Elle accroît la volonté, réduit l'hyperactivité et améliore l'intégration sensorielle des personnes autistes. Par exemple, de nombreux hôpitaux publics utilisent la médiation équine, comme par exemple l'hôpital psychiatrique de Blain en Loire-Atlantique. Une séance avec un cheval est faite de multiples activités. Je vous donne les exemples qu'ils font comme pratique. Par exemple, ils brossent l'animal, ils prennent contact avec lui en but de l'apprivoiser. Ils font des exercices précis afin de communiquer avec lui. Ils observent l'animal en liberté pour découvrir l'ensemble de ses gestes. Ils le font travailler au sol où le cheval aussi peut être tenu en main pour voir ce qu'il fait, ou aussi, mais ce qui est un peu différent, être à nouveau sur le cheval. Maintenant, je vais vous parler de l'intérêt des animaux de compagnie dans les EHPAD et maisons de retraite. Enfin, c'est pour vous dire que pour l'instant, certaines maisons de retraite les autorisent, d'autres pas, ça dépend du règlement intérieur. Mais ces animaux ont un impact très important sur le psychisme des résidents. Ils leur permettent, par exemple, d'avoir une compagnie au jour le jour, d'avoir un moteur d'affection, un sentiment d'apaisement, de soutien moral, de bien-être et enfin aussi de distraction. Et par exemple, c'est un bienfait physique pour les personnes âgées, car ça oblige à sortir l'animal plusieurs fois si c'est par exemple un chien. Donc vous voyez, les animaux ont de multiples activités qui peuvent améliorer la sensibilité et la personnalité des personnes.
Bah, merci Pascal, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez des expériences que vous voulez partager avec vos animaux?
J'ai eu deux chiens dans ma vie, Paco et puis Raya, et puis ils sont morts.
Moi j'avais un chien quand j'étais plus jeune, à l'âge de 8 ans, on l'a fait piquer, c'était un chat loup, c'est-à-dire c'était ni un chien ni un loup. Et le chien est devenu sauvage. Au bout d'un certain nombre d'années, il avait mordu le fighter, une personne qui s'approchait du domicile, et même ma mère qui étendait du linge. Donc on a été obligé de le piquer parce qu'il revenait à l'état sauvage. Parce que c'était un chien, vous voyez, qui avait la queue retournée. C'est parce que les chiens, en partie, pour la queue qui pendent, mais les loups, ils ont la queue retournée, et c'était le type de chien qu'il y avait, quoi.
Ah, j'en ai vu pas mal, des chiens avec la queue retournée, comme ça.
C'est des chiens qui n'existent plus maintenant. C'est des chiens qui n'existent plus du tout maintenant, hein.
Bah, oui, c'est, bah, les animaux qu'on a adoptés, ils viennent de l'esprit sauvage, quoi. Enfin, ils sont.
Et puis, en plus, il y a la place qu'on a, qu'on leur donne aussi, quoi, parce que ça peut casser la solitude, ça peut amener des interactions qu'on a chez soi quand on n'a personne. S'il y a un petit chat de compagnie, un petit animal de compagnie, il y a une interaction qui se fait. Ça fait du bien psychologiquement, ça fait du bien mentalement.
On dit d'ailleurs que les animaux de compagnie ont été choisis par les êtres humains parce qu'ils étaient mignons et parce que ils interagissaient positivement avec les affects humains, quoi.
Bah oui, le comportementalisme parlait bien de que en fait les animaux s'adaptent en fait, ils ne font que s'adapter à l'humain et c'est de là dont est tiré en fait des fois les soucis qu'on peut avoir avec ces animaux, avec nos animaux, c'est que on a des comportements qui ne peuvent pas être tout le temps appropriés et qui perturbent l'animal, quoi.
Voilà ce que... Moi je ferais une conclusion spirituelle, mais qui a un rapport quand même. Du coup, pour le comportement de l'homme par rapport à quelque chose, il y a un psychiatre qui écrivait dans le journal il y a à peu près 2 mois. Maintenant, le nouvel animal domestique, c'est le smartphone pour les jeunes. Ouais. Parce que quand ils l'ont plus, ils s'inquiètent. Il est toujours à côté d'eux. Et quand ils l'ont perdu, ils recherchent.
Ouais, c'est bien. Et effectivement, il y a une vraie addiction.
Ouais, parce que c'est pas très vivant, un smartphone.
Non, c'est sûr. Mais c'est vrai, ça a le même rôle.
C'est comme les Tamagotchi, un peu ça, les Tamagotchi.
C'est vieux, mais oui, c'est genre, il y avait ça. Les consoles, ouais. Aussi, tout ça. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Pascal, pour ta chronique. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'en profite pour vous annoncer la réouverture du restaurant du GEM pour tout le monde le 28 avril et le 5 mai. Et par la suite, ce sera à décider. Et nous allons maintenant clôturer cette émission par une musique écrite et interprétée par Olivier. Voilà.
Merci, au revoir.
Et merci, au revoir. Ouais.
À bientôt.
À salut.
Ouais. C'est 4.
No motor burn on the earth, I swear to pray for us. If the dead man disappear, remember you to love. Remember to love everything, damn it through the weather. Bet your eyes on the shimmer, embrace the space and freedom. And remember you to take it all, the world's sold like an animal. That's a name song. So long, so long. A primary look, a familiar animal foot. Plus jamais de troupes sur la terre, je jure de prier pour nous. Si la mort disparaît, souviens-toi d'aimer. Souviens-toi de tout aimer. Le temps est au travers du temps qu'il faut. Pose tes yeux sur un miroir, embrasse l'espace et la liberté. Et souviens-toi de tout prendre, l'âme du monde comme un animal. C'est une chanson naïve, si long, si long. Un regard primaire, une pensée animale familière. C'est une chanson naïve, si long. Pensez.